Ouvrons le Saint-Livre dans l'Évangile de Luc. Oui, merci au Seigneur pour sa parole. L'Évangile de Luc, chapitre 17. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 1er. Les oreilles de votre cœur sont-elles ouvertes ? Heureux les chrétiens dont les oreilles du cœur sont ouvertes. Heureux. Luc, chapitre 17, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'y scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer », et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceint-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Amen. Vous gardez le texte et vous allez juste avant l'Apocalypse, dans l'épître de Jude. Nous allons lire un verset dans Jude, au verset 20, où il est demandé quelque chose à chacun. Et même si les pasteurs doivent édifier l'Église, nous devons également nous souvenir que nous avons le devoir de nous édifier nous-mêmes. Jude, verset 20. C'est quelque chose d'important parce qu'on peut se retrouver dans un endroit où on n'est pas édifié, mais on peut s'édifier soi-même. C'est ce que dit le verset 20 de l'épître de Jude. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant, par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Amen. Qu'est-ce que ce texte dit ? Édifiez-vous vous-même. Donc, c'est ma responsabilité, c'est clair, de faire en sorte ce matin de vous édifier, de vous enseigner, de vous exhorter. Mais nous devons le faire, chacun pour soi, chez nous, bien sûr, et prier par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné une très sainte foi. Vous savez, la foi que Dieu veut que nous exercions, nous l'avons. Souvent on entend, Seigneur, je n'ai pas la foi. Seigneur, tu vois, donne-moi la foi que Dieu vous demande de voir, vous l'avez. Il n'est pas possible que Dieu ne vous ait pas donné ce qu'il vous demande d'utiliser. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Ça serait grave de la part du Seigneur qu'il ne nous donne pas ce qu'il nous demande d'utiliser. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont perdu la foi, parce qu'ils ne sont pas sérieux avec ce que Dieu dit. Et la foi, elle est sainte. Donc on doit bénir Dieu pour cette foi qu'il nous a donnée. Est-ce que vous en êtes conscient ? Vous avez la foi. Vous ne la sentez pas, ce n'est pas important ça. Dans cette même épître, au verset 3, au verset 4, l'apôtre nous met en garde. Regardez, verset 3 et verset 4. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. » Donc, rejoint ce sujet, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, voyez, ce verset confirme une fois de plus ce que je viens de vous dire. La foi vous a été transmise. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça c'est un avertissement terrible, que dans l'Église du Seigneur, alors c'était déjà à l'époque, mais je ne vous dis pas aujourd'hui à cause de l'apostasie, combien on en est arrivé à changer la grâce de Dieu en dérèglement. Pourquoi ? Parce que on n'amène pas les gens à vivre par la foi. Dieu répond à la foi. C'était le sujet de notre exhortation de mardi. Dieu répond à la foi. Le juste, il vivra. Comment ? Non. Par sa foi. C'est écrit dans Habacuc au chapitre 2, verset 4. Le juste, il vivra par sa foi. Quelle grâce d'être entouré de gens qui ont la foi. C'est une bénédiction. On le sent vite quand on est avec quelqu'un qui est dans l'incrédulité, quelqu'un qui est dans le gémissement, pour reprendre une parole de prophétique. On est malheureux lorsqu'on voit des chrétiens qui ne sont pas hypocrites en plus, qui sont capables de chanter « Mon Dieu, plus près de toi » de tout leur cœur et qui n'arrivent pas à entrer dans le repos de la foi, à utiliser cette foi qui nous a été transmise. Parce que n'ayez pas le toupet de dire à Dieu, « Seigneur, tu ne m'as pas donné la foi. » Ce n'est pas possible. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Et je le répète, la foi que Dieu vous demande d'avoir et d'utiliser, vous l'avez. Donc ce sont des choses sérieuses, puisque l'apôtre dit, « Édifiez-vous sur votre très sainte foi. » Quand Jésus est mort, vous le savez, il s'est passé quelque chose dans le temple de merveilleux, d'extraordinaire. On ne le réalise pas quand on le lit pour la première fois, mais c'est extraordinaire. Le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Dieu déchirait ce voile et le temple a été en 70 détruit. Donc Dieu changeait de dispensation et faisait que le temple, c'était qui le temple ? Qui c'était le temple ? C'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Les temples aujourd'hui, ce sont les chrétiens, ce ne sont pas les bâtiments qui... Bien sûr, on peut appeler ce bâtiment un temple parce que c'est la maison de Dieu. Et c'est pas... Des gens disent, mais non, ce n'est pas un temple. Le temple, il faut appeler ça une salle. Moi, je regrette, c'est la maison du Seigneur. À partir du moment où les chrétiens sont rassemblés dans un lieu, le lieu devient la maison du Seigneur. Enfin, au-delà de l'analyse, vous êtes le temple du Saint-Esprit et ce temple doit être saint. La foi doit être saine. Quand Paul dit, mais enseigne-leur la saine doctrine, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui vit dans la saine doctrine ? Eh bien, il a un comportement sain, S-A-I-N. Et sain, S-A-I-N-T, bien entendu. Voilà à quoi on reconnaît quelqu'un qui vit par la foi. Il ne peut pas en être autrement. Quelqu'un qui vit la saine doctrine, il aura un comportement sain. Si notre comportement n'est pas sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, c'est qu'il y a un problème de comportement. Alors, on a lu dans l'évangile de Luc ce texte où Jésus, justement, répond à cette question, où les apôtres, bien sûr consternés par l'enseignement sur le pardon, ont le réflexe de dire à Jésus, « Augmente-nous la foi ». Est-ce que c'était bien qu'ils le fassent ? Oui, c'est très bien. C'est bien, puisque Jésus, d'ailleurs, ne leur fait pas un reproche, il leur donne plusieurs enseignements liés à cette requête. Alors, si vous faites partie de ceux qui sont en train de dire « Augmente-nous la foi, que ma foi grandisse », parce que mes frères et sœurs, sans la foi, il y a des paroles dans la Bible, ça vaut la peine d'y réfléchir quand même. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a des paroles, des textes, franchement, je pense qu'on devrait s'y arrêter. Ils ont été donnés par Dieu pour qu'on s'y arrête, pour qu'on y réfléchisse. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça fait 33 ans que je suis pasteur et ça fait 33 ans que je vais dire toutes les semaines à un chrétien, d'ici ou d'ailleurs, vous n'avez pas la foi. Vous croyez en Dieu, mais vous n'avez pas la foi. Et beaucoup de gens déjà se mélangent les pinceaux, rien que là. Beaucoup de gens croient en Dieu, ils ont cette conviction que Dieu existe, que Dieu a créé les cieux et la terre, mais ils ne lui font pas confiance. Et à partir de là, nous sommes bloqués. Si vous prenez une concordance et que vous regardez tout ce qui se fait par la foi, même si tout est grâce. Vous êtes d'accord que tout est grâce ? Vous êtes d'accord ? Si on a pu venir ce matin dans la maison du Seigneur, c'est parce qu'on est meilleur ou c'est une grâce de Dieu ? C'est une grâce de Dieu. Tout est grâce. Si vous pouvez faire un pas devant l'autre, je leur dis, c'est une grâce. Tout est grâce. Tout. En lui, nous avons le mouvement, la respiration, vous connaissez. Tout est grâce. C'est même pas la peine d'en discuter. Mais il n'empêche que quand vous lisez la Bible, et si vous prenez une concordance et que vous tapez le mot foi, vous allez être subjugué de voir la quantité de choses qui se produisent lorsqu'on exerce la foi. J'en ai noté quelques-uns. Tout se reçoit par la foi. Le salut, il se reçoit par grâce ou par la foi? Alors, aidez-moi, il faut m'aider. Le salut, il s'obtient comment? Par la grâce ou par la foi? Par les deux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, il faut qu'il y ait la conjonction des deux. S'il n'y a que la grâce, il n'y a rien. S'il n'y a que la foi, la foi sans la grâce, c'est rien. La foi sans la grâce, croire en Dieu sans sa grâce, ça ramène la religion, ça ramène tout au niveau de l'homme. Bon, je ne vais pas parler de la grâce ce matin, je veux parler de la foi. La foi, c'est la part de l'homme, même si la conjonction de la grâce et de la foi font le salut, il n'empêche que la grâce est 99%, mais il faut la petite clé de la foi pour recevoir le pardon, recevoir le salut. J'en ai pris une dizaine qui me sont venues à l'esprit. Mais faites-le avec une concordance et vous allez vous rendre compte combien il est intéressant de comprendre ce que c'est la foi. Parce que pour beaucoup de gens, je le répète, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts quand Jésus reviendra. Beaucoup de chrétiens seront comme des vierges folles, parce que justement, l'ennemi fait tout pour que même dans nos églises, la grâce de Dieu soit changée en dérèglement, ce ne sera pas le sujet de ce matin, mais c'est ce qui se passe dans bien et bien des endroits. La parole de Dieu, c'est sérieux. La sainteté, c'est sérieux. La foi, c'est sérieux. On a lu juste un verset, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Et si je commence à dire, ouais, la foi que Dieu m'a donnée, d'accord, mais moi, eh bien, vous vous moquez de Dieu. Parce que ce que Dieu nous a donné, est-ce que ce que Dieu nous a donné est bon? Donc, si je méprise la foi, je ne me mets pas du bon côté. C'est pour ça qu'il faut veiller à ces paroles. On doit être sérieux, mais on doit être archi-sérieux dans l'Église. Par rapport aux choses que Dieu nous dit qu'il nous a données. Alors, je prends quelques... Vous êtes fils de Dieu par la foi. Vous le croyez que vous êtes fils de Dieu? Parce que moi, je vous le dis ou parce que Dieu vous le dit? Parce que c'est écrit dans la Bible? Parce que c'est écrit. Si Dieu l'a dit, qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Ce que vous pensez ou ce que Dieu dit? Mais c'est ce que Dieu dit qui est important. Vous êtes fils de Dieu par la foi. Il est par la fermeté de votre foi. Les églises se fortifient dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Je vis dans la foi au fils de Dieu. Je suis fondé et inébranlable dans la foi. Nous avons la paix par la foi. Purifié par la foi. Héritié par la foi. Fondé par la foi, nous marchons par la foi, vous êtes ressuscité en lui par la foi, Christ habite dans nos cœurs par la foi. J'en ai pris une dizaine, j'aurais pu en prendre 50, bon peut-être ça fait un petit peu rébarbatif, mais ça vaut quand même la peine de prendre la concordance et de lire tout ce qui se passe lorsque l'on vit par la foi. Parce qu'aujourd'hui en plus on n'a pas d'excuses. On a tous une concordance. Il y a 200 ans en arrière, il n'y avait que les pasteurs. Et encore, qui avaient une concordance. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une concordance gratuite. Oui ou non? Et regardez combien Dieu se soucie de notre foi. Parce que je le répète, mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous sommes conscients de la faiblesse de tant et tant de chrétiens. Parce qu'ils ont arrêté leur démarche à la croyance. Et cette croyance peut se transformer en superstition, en sentimentalité, en légèreté, alors que la foi, c'est incontournable. La foi, elle vous donnera de l'assurance. La véritable foi, elle donne de l'assurance. La véritable foi, elle donne de l'espérance. La véritable foi, elle vous fait marcher dans ce chemin, les yeux fixés sur le Seigneur. Le juste, il vivra par la foi. Mais faites-le. Des fois, les gens me disent, je ne sais pas quoi lire. J'ai lu la Bible, maintenant, je ne sais plus quoi lire. Écoutez-moi, là, je pense qu'il y a un vrai problème. Je crois que la Bible, c'est inépuisable. Inépuisable. Même les évangiles. Un homme ne ferait que lire les évangiles toute sa vie, il apprendra toute sa vie. Alors mes frères et sœurs, lisez tout ce qui s'obtient par la foi. Dieu veut donner. Vous croyez que Dieu donne? Vous croyez que c'est vrai le petit cœur qu'on a chanté tout à l'heure là? Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et vous le croyez, ça? C'est écrit dans la Bible? Il est tiré de la Bible ou c'est tiré d'un farfelu qui voulait faire un super cantique? Ou est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est Dieu qui dit qu'il y a un fleuve dans le ciel où on peut aller s'abreuver? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais tout cela, ça ne se reçoit que par la foi. Et quand Paul dit aux Corinthiens, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il est certain que nous ne pouvons apporter que ce que l'on a reçu. Et tout se fait par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Jacques, qui reprend cette affaire de foi par rapport aux épreuves, qu'on a du mal à accepter les épreuves, parce que les épreuves, ça va, ça vient, c'est dur, c'est pas dur, c'est lancinant, et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les épreuves. Mais l'apôtre Jacques dit, écoutez, demandez de la sagesse, et que celui qui demande, il demande avec foi, car celui qui doute est un homme irrésolu, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Voilà, c'est un deuxième texte qui mérite qu'on s'y arrête. Pas maintenant, on n'a pas le temps. Mais peut-être chez vous ce soir, dites, je vais m'arrêter sur ce texte. Il est hors de question que je continue à vivre dans le doute. D'ailleurs, venez avec moi dans l'épître de Jacques, regardez ce qu'il dit. Il parle à des chrétiens. J'ai lu dans un commentaire que ce n'était pas des chrétiens. Mais croyez-moi, quand vous lisez l'épître de Jacques, je crois que rien que dans les premiers versets, 11 fois, il est parlé frère, frère, frère. Donc, je veux dire, soyons sérieux. Alors, Jacques, chapitre 4. Parce que c'est un texte qui parle aux pécheurs, il s'adresse aux pécheurs. Mais est-ce qu'un chrétien peut être un pécheur aussi? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul à la fin de sa vie? Qu'il est le premier des pécheurs. Au début de son ministère, il dit « Je suis le moindre des apôtres ». Et à la fin de son ministère, il dit « Je suis le premier des pécheurs ». Jacques chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ça, c'est un problème. Les gens qui sont tout le temps dans cette ambiguïté spirituelle. Il croit un jour, et le lendemain, il ne croit pas. Ou il croit un jour, et pendant 3 jours, il ne croit pas, etc. On est tout le temps dans cette espèce de tristesse, d'échec. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un chrétien, il doit vivre dans la victoire. Et beaucoup de gens confondent la foi, justement, avec les murmures. La prophétie nous rappelait ce matin que Dieu ne veut pas que nous gémissions. Dieu ne veut pas que nous nous lamentions. Il y a ce qu'on appelle les larmes de crocodile. Il y a les vraies larmes. On a le droit de pleurer. Ce n'est pas interdit de pleurer. David dit dans le psaume 6, je crois, ou le verset, oui, il dit « Dieu entend la voix de mes larmes ». Il y a le droit de pleurer. Mais il y a ce qu'on appelle les larmes de crocodile. Dieu ne répond pas à l'apitoiement. Dieu ne répond pas au murmure. Dieu ne répond pas au gémissement. Dieu ne répond pas à cette misère. Dieu répond à la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Et mardi, je prenais ce texte que j'ai eu à cœur de prendre dans la version Darby, où Jésus se trouvait, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 5, si je me souviens, Jésus se retrouve avec des sadducéens, des pharisiens, des hommes religieux dans une maison, et il parle. Et il est dit que Jésus était là pour les guérir. Jésus était venu pour les guérir. Tout pasteur qu'ils étaient, ils avaient besoin de guérison aussi, certains, en tous les cas, un. Et aucun ne l'a été. Par contre, il est arrivé que 4 gars amènent un bonhomme qui était complètement paralysé. Ils se sont débrouillés pour le mettre à ses pieds. Et il est dit, Jésus voyant leur foi. Et Jésus, il voit ce matin, il voit. Il voit, moi je ne vois pas de ce que vous êtes. Mais Jésus, il voit dans votre cœur. Vous le croyez que Jésus, il voit si vous avez la foi ou si c'est juste de la religiosité. Il voit ce qu'il a à vous dire. Il sait. Alors c'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs, pour qu'on ait la pensée de Dieu et non pas une parole pour une parole. Il voit lorsqu'il leur a dit, mais vous vous rappelez lorsque Jésus leur demande à ses enfants, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Dieu revêt les fleurs des champs, regardez un lys. Vous avez vu en ce moment les pivoines, les fleurs qui sortent. C'est extraordinaire. C'est quand même, je vous rappelle que c'est Dieu qui les a créées toutes. Et Dieu dit, regardez ce que j'ai fait. Regardez les pivoines, regardez le lilas bientôt qui va sortir. C'est les parfums, les couleurs. Si moi, l'Éternel, je m'occupe des fleurs qui demain seront brûlées, jetées au four. Oui, qu'est-ce qu'il dit? À combien plus forte raison le Seigneur vous vêtira, vous nourrira et vous logera. C'est pas dit comme ça, mais c'est la même chose. Oui ou non? Et il ajoute Jean de peu de foi. Et lorsque, mes frères et sœurs, il faut être sérieux, parce que bientôt Jésus, vous le croyez que Jésus va revenir? Et il y a des gens qui vont se retrouver collés à l'enlèvement pour la simple unique raison qu'ils n'auront pas été sérieux. Parce que ce que je vous dis, c'est pas le must. Ce que je vous dis, c'est le béaba. C'est le béaba ce que je vous dis. D'ailleurs, c'est dans le sermon sur la montagne, et Jésus leur fait ce reproche, mais c'est une bénédiction. Tous les reproches de Dieu sont des bénédictions. Voilà. Si vous vous inquiétez pour le lendemain, alors est-ce que ça peut arriver de s'inquiéter? Alors soyons honnêtes en même temps. Soyons honnêtes, parce qu'il ne faut pas jouer les hypocrites. Est-ce que je peux... Mais vous allez comprendre la différence. C'est une chose que de commencer à s'inquiéter, et c'est une chose que de s'inquiéter depuis 2 mois, parce que je m'inquiète pour ceci ou pour cela. Il n'est pas dit, c'est pas normal que vous vous inquiétez. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que dès qu'on commence à s'inquiéter, stop! Je choisis de mettre ma confiance en Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que l'ennemi, il est spécialisé pour la fausse culpabilité. Le Seigneur ne dit pas, je le répète, ce n'est pas normal que vous vous inquiétez. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous vous inquiétez, si nous nous inquiétons pour la nourriture, c'est-à-dire pour le travail, si nous nous inquiétons pour le logement, si nous inquiétons pour les vêtements, Dieu peut nous dire, mais c'est pas, ne soyons pas dans l'appauvrissement spirituel, soyons dans la reconnaissance. Jean, de peu de foi. Il ne le dit pas que pour ça, il le dit pour des choses encore plus sévères, lorsqu'ils sont dans la tempête et que Jésus dort, etc. Vous connaissez tous ces textes où Jésus leur dit, mais Jean, de peu de foi. Alors on comprend plus facilement que quelqu'un s'inquiète quand il y a une tempête, parce qu'il peut y avoir une tempête dans la famille. Est-ce que ça peut arriver, une tempête dans la famille? Est-ce que ça peut arriver, une tempête dans le couple, avec les enfants? Est-ce que ça peut arriver? Mais oui! Mais bien sûr que ça peut arriver. Et là, Seigneur, je te fais confiance. Tu es dans ma vie, Seigneur. Je t'ai accepté, je ne le sens pas. En ce moment, je ne sens pas du tout ta présence. Mais Dieu ne nous demande pas de sentir. Il nous demande de savoir. Et c'est là qu'on commence à basculer dans les émotions, dans le sentimental, que là, on perd la foi. Le Seigneur, il est dans ta vie, oui ou non? Parce que c'est la question en vérité qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes né de nouveau, oui ou non? Est-ce que vous êtes passé par la repentance et la conversion, oui ou non? Parce que le problème, il est là. Mais c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, l'église, toutes dénominations confondues, mais même les églises soi-disant de Pentecôte réveillées, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Et c'est ça qui a énormément fragilisé le royaume de Dieu. Un chrétien qui est né de nouveau, le Saint-Esprit est en lui. Parce que personne, écoutez, c'est pas moi, tout ce que je vous dis c'est des versets bibliques. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne, si vous croyez que Jésus est Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut avoir mis cette conviction dans votre cœur. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Vous le croyez que Jésus est Dieu? Tous? Allez, ceux qui ne le croient pas, levez-vous, on va discuter pendant 2 minutes. Mais il y a des gens qui ne le croient pas. Il y a des pasteurs qui ne le croient pas. Ça vous choque? C'est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Il est dépouillé de sa gloire, bien sûr, heureusement. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu lui-même était venu? Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus lui-même était venu à Bethléem? Dans la comment ça s'appelle? Dans l'auberge, enfin, dans la crèche. Si le Seigneur était venu dans l'étable, qu'est-ce qui se serait passé dans l'étable? Ah, moi, je peux vous dire que ça aurait senti le roussier. parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc Jésus, Dieu s'est dépouillé et il est venu dans le sein de Marie, il est venu comme un homme. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et il est avec nous et il l'a promis et il sait tout. Et il sait ce dont vous avez besoin. Vous ne le savez peut-être pas ce que vous avez besoin, mais lui, il le sait. C'est écrit, ça, où c'est que c'est écrit? Dieu, votre Père céleste, sait ce dont vous avez besoin. C'est écrit où? Matthieu 6, c'est bien, il est bien. Vous êtes stagiaire à Sainte-Anne? Ça ne m'étonne pas. On va le lire, mes frères. Mais lisez-le, mais méditez-le, lisez-le tous les jours. Mais quand même, ce n'est pas moi qui le dis. Si c'était moi, bon, bien sûr, ça serait peut-être intéressant. Mais ça, on ne cherche pas quelque chose qui est intéressant. On ne cherche même pas la lumière. Des fois, on dit au Seigneur, que ton parole soit comme la lumière. On ne cherche pas la lumière. Il faut que la parole, ce soit la vie. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il faut que ça produise la vie. Regardez dans Matthieu chapitre 6. Mes frères et sœurs, c'est le béaba. C'est dommage parce que je sais que beaucoup de chrétiens qui ont 20 ans de conversion sont encouragés par cette prédication, mais vous devriez presque ne pas l'être. Et vous devriez dire, mais non, nous on veut du steak, du gros steak. Et là, c'est du biberon, du lait, premier âge. Matthieu chapitre 6, verset 32. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Ce sont des choses qu'on devrait avoir mémorisées, intégrées, depuis le début, alors Dieu ne va pas nous écraser, ne vous inquiétez pas, vous savez que Dieu est bon. Mais quand même, Matthieu 6, 32, c'est un verset qu'on devrait connaître par cœur, comme ça le Saint-Esprit pourrait nous le rappeler. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Mais vous le croyez ça, frères et sœurs? Il sait ce qu'il vous faut. Les jeunes qui aspirent au mariage. Il y a des jeunes qui aspirent au mariage? Allez, levez la main. Ah bon? Je ne prie plus pour vous. Il n'y a personne qui aspire. Mais est-ce que le Seigneur, il sait l'épouse dont on a besoin? Est-ce que Dieu, il sait? Répondez-moi, les jeunes. Votre Père Céleste sait. Par contre, la suite, il faudrait peut-être la prendre un peu avec plus de sérieux. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais qui le croit, ça, vraiment? Qui le croit? Moi, je le crois, franchement. Qui croit ces choses? Vous les croyez, frères et sœurs? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors, en même temps, c'est archi profond. En même temps, c'est super simple. Mais mes frères et sœurs, c'est le Seigneur. Si vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, si vous êtes né de nouveau, Dieu est devenu votre Père. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous êtes juste un chrétien de nom, votre père, c'est le diable. Il faut le dire comme ça. Voilà, ne dites pas, moi je suis neutre. Si vous dites, je suis neutre, en vérité, moi je vais vous dire qui c'est votre père. C'est le diable. On ne peut pas être neutre. Ou notre père, c'est le diable, ou notre père, c'est Dieu. Oui ou non? Bon. Si vous ne le croyez pas, écoutez, ne venez pas me voir. Lisez la Bible et vous le verrez que c'est vrai. Pas la peine que je vous explique quelque chose qui est simple, que vous devriez découvrir dans la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, ma foi, elle va grandir. Parce que je refuse de m'inquiéter pour le travail, pour le logement, pour les besoins. Dieu sait l'épouse dont j'ai besoin. Dieu sait, jeune homme, jeune fille, le mari dont tu as besoin. Il le sait. La foi, c'est ça. Dieu l'a dit, c'est un fait. C'est quelque chose de non négociable. C'est quelque chose qui doit être enraciné dans votre cœur. Jésus a tellement voulu que nous le comprenions qu'il a même dit « le ciel et la terre passeront ». Ça fait quand même un gros truc. Hein. Mais ma parole ne passera pas. Vous le croyez ça? C'est pour ça mes frères et sœurs, prenons la victoire. Alors ce matin je ne vais pas faire toutes les étapes sur la petite foi, mais commençons par le début. Parce que c'est vrai que tout est fait pour nous décourager, tout est fait pour nous accabler. Si y a des gens, monsieur, vous avez vu les informations, vous avez vu ce qui s'est encore passé. Mais écoutez, ça va dégénérer. C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'en plus Dieu nous avertit? Est-ce que c'est écrit que ça sera comme du temps de Noé? Est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? La méchanceté était grande sur la terre et les pensées du cœur des hommes étaient continuellement accaparées par le mal. La terre était remplie de violence. Alors que, bon après quand on prie, moi je pense qu'il ne faut pas juger non plus la prière. Seigneur, qu'il y ait la paix sur la terre, ben non. La paix viendra, oui, après le retour de Jésus-Christ, pendant le millénium. Là, il y aura 1000 ans de paix sur la terre. Et encore, les gens qui ne voudront pas obéir à Dieu, ils seront libres. Même si le diable, il est enchaîné pendant 1000 ans, laissez-moi vous dire, on le voit, puisqu'à la fin, il y a plein de nations qui se liguent pour détruire Israël une fois de plus. Vous savez, la dernière bataille, parce qu'il y en a deux, de Gog et Magog. Ça prouve bien que le cœur des hommes choisit le mal, même si le diable, il est lié. C'est pour ça que Dieu a créé la 7e dispensation du millénium. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a tant de dispensations. Eh bien, c'est pour montrer que dans tous les cas de figure, les hommes ils sont capables de choisir le bien ou de choisir le mal. Quelle que soit la dispensation dans laquelle les hommes aient vécu. Nous, notre choix, c'est de dire, Seigneur, tu as dit ces choses, j'ai ta parole, tu me demandes de ne pas m'inquiéter. Seigneur, pardon, 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 du fond du cœur, pardon. Je ne veux pas m'inquiéter, Dieu sait ce qu'il vous faut. Dieu sait qu'il vous pourvoira. Mettez Dieu en premier. De façon, si on ne met pas Dieu en premier, on perd l'assurance, on perd l'espérance. Notre conscience nous accuse. On peut jouer la comédie, mais si je vis dans le péché, si je vis volontairement dans le péché, je ne parle pas d'un péché que je commets involontairement et pour lequel je demande pardon et que je règle, etc. Mais si je vis dans le péché, je peux faire la comédie tant que je veux. Je peux utiliser la méthode Coué tant que je veux. Parce que laissez-moi vous dire que ça s'est infiltré dans la doctrine nouvelle des assemblées, des églises. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Voilà, répétez en boucle, répétez. Non, c'est pas ça qui va purifier votre conscience. Par contre, si nous obéissons à la parole, nous aurons de l'assurance. Si nous obéissons à la parole, nous aurons de l'espérance. Mes frères et sœurs, la foi, c'est de l'obéissance. C'est quoi la foi ? C'est quoi le bon combat de la foi ? C'est quoi cette foi vivante ? C'est de l'obéissance. D'ailleurs, on va revenir au texte de Luc qu'on a pris en introduction, parce que je ne l'ai pas encore développé. Dans le texte de Luc, où les apôtres disent « Augmente-nous la foi », qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Jésus est en train de répondre aux apôtres qui posent la question « Augmente-nous la foi ». Parce que je vous dis, sans la foi, nous ne serons pas prêts quand Jésus reviendra. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis prêt. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Première leçon. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Donc c'est un tout petit grain, une petite graine, toute petite, minuscule. Vous diriez à ce sycomore, un arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Donc on part. L'explication, ça part de quoi ? D'une semence. Dieu compare la foi à une semence. Cette semence, bien sûr, doit se développer. Parce qu'une semence, quelque petite qu'elle soit, même si elle est toute petite, si vous prenez un petit gland qui est gros comme la première phalange de l'auriculaire, un gland, ça peut devenir un chêne impressionnant. Vous n'avez pas vu des chênes ? Des fois, c'est impressionnant. Mais au départ, c'était quoi le chêne ? C'était un tout petit gland. Donc, il faut bien comprendre, la foi, c'est une petite semence, c'est une question de qualité, mais elle doit grandir. Elle doit grandir et se développer. Alors, si je prends les textes sur la petite foi et que je commence à dire, tiens, ça, je vais le régler. Je vais régler le problème de l'inquiétude. Deuxième texte où Jésus parle de la petite foi, c'est les tempêtes, alors qu'il est à l'intérieur de la barque. Je vais régler cette affaire. Je vais accepter toutes les épreuves. C'est bien de chanter « Mon Dieu plus près de toi », on l'a chanté avec beaucoup de cœur, mais dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a chanté après ? Seigneur, tiens-moi plus près de toi. Seigneur, les tempêtes, Dieu il connaît les tempêtes. C'est qui a pesé le poids du vent ? C'est écrit où, ça, que Dieu a pesé le poids du vent ? Ouais, dans Job. Dieu contrôle tout. Vous le croyez ? Tout. Et la tempête que vous êtes en train de traverser dans le couple, dans l'église peut-être, que vous êtes dans une église où il y a une tempête. Ça peut arriver, une tempête, dans une église ? Est-ce que ça peut arriver, une tempête ? Est-ce que Dieu peut permettre qu'il y ait une division dans une église ? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui le montre ? Ouf ! On va le lire quand même, parce que je ne sais pas si les gens comprennent ces choses. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Le problème, c'est que les gens lisent la Bible, mais qu'ils ne la méditent pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, regardez ce que Dieu dit à cette église. À vous, alors je ne parle pas d'ici, parce qu'ici quand même, je pense que ça a été réglé cette affaire. Mais par rapport à tous les chrétiens qui m'écoutent, combien il est important que nous comprenions qu'il peut y avoir des divisions dans les églises. Et Dieu les permet, regardez pourquoi. Regardez bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ceux que je ne loue point, alors vous avez vu là, bon, les chrétiens de Corinthe, ils ne sont pas toujours loués. Est-ce que ça arrive, ça, dans une église, que Dieu peut dire « je ne vous loue pas » ? Mais voyez, aux mêmes chrétiens, c'est pour vous dire qu'il y a un temps pour tout. Regardez au verset 2, je vous le dis pour vous montrer que Dieu est un Dieu honnête, hein. Il est équilibré. Au verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous loue. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles Dieu peut nous louer, c'est-à-dire nous féliciter, et il y a des choses que Dieu peut nous reprocher. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est un peu le cas dans votre vie ? Il y a des choses sur lesquelles on peut vous remercier ? Il y a des choses qu'il faut corriger. Alors, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors ça, c'est clair que c'est pas... C'est terrible, ça. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Regardez la suite. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Vous avez bien lu comme moi ? Vous l'aviez lu, ça ? Vous l'aviez lu ? Vous l'aviez... Ça fait peur quand même, hein ? Afin, regardez bien pourquoi, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Dieu peut ébranler, parce que c'est une expression qui revient plusieurs fois, Dieu peut ébranler la terre, le ciel, donc nos vies, pour que les choses se décantent. C'est écrit. Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre les épreuves. Dieu, quand il y a eu la tempête en Galilée, là où Jésus était dans la barque, moi je me suis souvent posé la question, qui a envoyé la tempête ? Qui a envoyé la tempête ? Parce que j'ai lu tout dessus, j'ai tout lu. Il y en a qui ont dit, oui, c'était les apôtres qui avaient péché, dont Dieu a provoqué la tempête. Il y en a qui disent, c'est le diable qui a provoqué la tempête pour couler le Seigneur. Oui. Ouais, c'est original. Comme si Jésus pouvait mourir noyé dans le lac de Générance. Arrête, oui, bon. Bon, passons. D'autres ont dit, c'est Dieu qui a provoqué. Moi, je pense que c'est le Seigneur qui peut provoquer certaines tempêtes, parce que c'est écrit, je crée la prospérité et je crée l'adversité. Dieu a provoqué cette tempête, je le pense. De toute façon, que ça vienne de l'un ou de l'autre, tout vient avec l'autorisation de Dieu. Donc, cette tempête, elle est provoquée, et Jésus dit, mais homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? Donc, voyez bien, il n'a pas dit, vous avez bien fait de me réveiller, vous avez bien fait de me réveiller, je vais vous montrer ce que je sais faire. Est-ce qu'il aurait pu le faire, ça ? Non, il a voulu mettre la bénédiction sur leur foi. De la même manière que lorsqu'il guérissait quelqu'un, lorsqu'il sauvait quelqu'un, il ne disait pas, je t'ai guéri, je suis le Seigneur du ciel et de la terre, t'as compris ? Est-ce qu'il aurait pu le faire ? Sérieusement, est-ce que Jésus aurait pu, pas s'irriter, puisqu'il l'a fait plusieurs fois, mais t'as pas pigé, t'as pas compris, je suis le Seigneur du ciel et de la terre, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce qu'il aurait pu le dire ? Non, qu'est-ce qu'il disait ? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Vous vous rendez compte ? Mais quelle délicatesse en plus, quelle grâce. Moi, il y avait un frère qui pleurait ce matin, mais je ne sais pas si ça vous arrive pas d'avoir envie de pleurer de joie des fois. Vous n'avez pas envie de pleurer de reconnaissance ? Vous vous rendez compte ? Le Seigneur du ciel et de la terre. L'âme chère et en os qui dit ta foi t'a sauvé. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous comprenions que oui, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Et on peut le répéter en boucle, parce que tout est grâce. Si David a tué Goliath, c'était quoi ? Parce qu'il était fort ? Parce qu'il avait la foi ? Ou quelque part, est-ce que c'est la grâce de Dieu qui a quand même fait qu'il a bien visé ? Vous voyez, vous pouvez tout prendre, tout. Tout est un effet de la grâce de Dieu. Si on est là ce matin, laissez-moi vous dire, c'est un effet de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Mais il n'empêche qu'il faut que notre foi, elle soit vivante. Il faut commencer à reprendre peut-être l'évangile de Matthieu. Et dire, tiens, je vais prendre tous les textes où le Seigneur fait ce reproche. Il ne le fait pas pour les détraquer ou pour les fatiguer. Il les fait au contraire, pour les éclairer. Alors Seigneur, moi je veux une foi vivante. Oui, il peut y avoir une épreuve dans mon foyer. Oui, je peux avoir une épreuve dans ma santé. Est-ce que ma santé peut se déglinguer ? Est-ce que je peux avoir un problème de santé ? Moi, je risque rien, je mange bio maintenant. Je mange bio. Je fais très attention. Mais si Dieu veut me reprendre demain, Est-ce qu'il peut me reprendre demain ? Mais monsieur, si je suis en bonne santé, et ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous allez mourir. Il y a des gens, je suis malade, je vais mourir. Ah mais moi je l'ai entendu. Il y a un frère Albi qui m'a téléphoné il y a 3 ou 4 ans. Il me dit, monsieur Gros, on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac, je vais mourir. Priez pour moi. Mais j'ai dit, vous n'allez pas mourir parce que vous avez le cancer. Si Dieu veut vous reprendre, il vous prendra. Et il m'a téléphoné dernièrement, il m'a dit, monsieur Gros, j'ai vu tant de gens mourir. Et lui, il est guéri. J'ai dit, mais mes frères et sœurs, on est la foi. Est-ce que vous croyez que sur son livre, parce que dans le ciel, il y a des livres. Je ne sais pas s'ils sont comme ça, mais il y a des livres. Sur le livre de vie, où votre vie est inscrite, la vôtre, à chacun. Est-ce que vous croyez que dans le livre de Dieu, tous vos jours sont inscrits, avant que vous n'existiez ? Est-ce que c'est écrit ? C'est écrit dans le psaume 139. Et avant qu'aucun de n'existe, tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Alors laissez-moi vous dire, à moins que vous ne commettiez le péché grave de vous suicider, qui court-circuiterait le plan de Dieu et qui vous enverrait certainement à l'enfer, quoique je ne suis pas capable de répondre à ça, mais quand même, quand on voit, comme je l'ai dit l'autre jour, les 3 hommes qui se sont suicidés dans la Bible, je peux vous dire qu'ils ne sont pas partis au ciel. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande ce matin que notre foi augmente. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, regardez avec moi, c'est important. Moi, je voudrais que vous vous appliquiez à vous édifier vous-même. Si vous attendez tout du pasteur, vous commettez une erreur. C'est une erreur d'attendre tout du pasteur. Il faut que vous vous édifiez vous-même. Regardez quand Paul écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 3. Vous méditerez le chapitre 3 et vous regarderez ce que contient le chapitre 3. Pourquoi Paul écrit aux Thessaloniciens, même si la première épître parle de l'enlèvement de l'Église. C'est toute une épître sur l'enlèvement de l'Église. Mais en vérité, regardez le cœur, la base. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Regardez, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Regardez bien. Pourquoi ? Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, Paul s'inquiète, il se soucie de la foi des Thessaloniciens. Et il veut les affermir et les exhorter afin que personne ne soit ébranlé. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. Pourquoi ? Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté. C'est sûr que quand quelqu'un confond la croyance et la foi, je peux vous dire que le tentateur, il a gagné déjà. Donc, voyez, il est là dans son impatience. J'espère que les chrétiens de Thessalonique, j'espère que les chrétiens de Toulouse, ils ont une foi vivante. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Quand la foi grandit, en principe, l'amour grandit, c'est inévitable. Donc, il y a de bonnes nouvelles. Mais regardez, verset 7. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Je vous ferai remarquer, une fois de plus, que l'apôtre Paul parle de ses angoisses. Et des épreuves. L'apôtre Paul angoissé. Non mais tu plaisantes, c'est une erreur de traduction. Est-ce que ça peut arriver à cause du fardeau de l'Église, à cause du fardeau de nos enfants, à cause des soucis ? Est-ce qu'on peut avoir des angoisses ? Mais oui. Mais mes frères et sœurs, je vous assure, mais c'est sûr que si vous entendez un prédicateur, c'est pas normal que vous ayez des angoisses, eh bien moi je vous dis que si. Mais comme tous les soucis, il faut les déposer. Et moi, franchement, moi je bénis Dieu de voir que David a eu des angoisses. Même Jésus, Jésus au calvaire, ça se comprend quand même. Est-ce qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ? Est-ce que c'est écrit ? Il a eu des angoisses. Le Seigneur, notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui a dit « Venez à moi et vous aurez du repos », qu'est-ce que c'est cette affaire ? Il a lui aussi des angoisses. Mais oui, parce que l'épreuve provoque des angoisses. Et ne vous tourmentez pas si vous avez des angoisses. C'est normal. Et ne prenez pas n'importe quoi par contre. Mes frères et sœurs, vous avez vu cet épître ? Il dit, mais voilà, j'ai de bonnes nouvelles de votre foi, nous avons été à consoler dans votre sujet à cause de votre foi. Mais regardez au verset 10, cette progression qu'il doit y avoir. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. Pourquoi ? Et de compléter ce qui manque à votre foi. L'église de Thessalonique, c'est une bonne église. L'église de Thessalonique est une bonne assemblée. Il entend de bonnes nouvelles au sujet de l'amour, au sujet de la foi. Mais il dit, voilà, moi je viens, c'est pas de l'orgueil. Je veux compléter ce qui manque à votre foi. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, elle est éternelle. Dieu nous gardera. Mardi soir, pour ceux qui étaient là, nous avons eu une prophétie qui nous rappelait de ne pas porter des regards inquiets. Une prophétie qui nous rappelait eh bien, que Dieu nous garderait jusque dans notre vieillesse. C'est écrit ça dans la Bible ? Une prophétie encourageante. Et c'est vrai, Dieu, notre Père, a dit qu'il pourvoirait jusqu'à la fin. Il pourvoira pour la terre et il pourvoira pour l'éternité. Parce que l'éternité, il va falloir quand même que Dieu pourvoie. Non ? Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, vous vous inquiétez pas pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre et pour l'arbre dans le paradis. Il y en a qui sont capables de s'inquiéter pour ça encore. Est-ce qu'il y aura assez à manger dans le ciel ? Est-ce que Dieu n'aurait pas oublié ma robe de fin lin ? Est-ce qu'elle y est ? Vous y pensez pas à ça, hein ? Vous y pensez pas ? Et si Dieu avait oublié vos chaussures ? Pourquoi vous y pensez pas ? Comment ? Il y a des choses pour lesquelles on ne s'inquiète pas, parce qu'on sait que tout dépend de lui. L'enlèvement, vous vous inquiétez pas pour l'enlèvement, parce que l'enlèvement, quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Et en plus, ça va aller vite. Donc, il va falloir que Dieu fasse vite. Ça va aller très, très vite, parce qu'il est même parlé d'un clin d'œil. En un clin d'œil, il faut que tous les morts en Christ partent, que le corps mortel reçoive l'immortalité. C'est quand même du travail. Ça ne vous inquiète pas. Et que dans la foulée, le Seigneur prenne tous ceux qui sont prêts. Là, on est dans l'église, on est 250. Qui est prêt ? Est-ce que le Seigneur prend tout le monde ? Trompé ? Hop, toi, tu n'es pas prêt, je te remets en bas. Non, vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on ne doute pas de ces choses d'une puissance infinie. Pour moi, l'enlèvement de l'église, c'est plus glorieux que la création des cieux et de la terre. Je ne sais pas si vous réalisez quand même. Parce que prendre un atome et en refaire un frère, une sœur, glorifié, moi je trouve que c'est du bon boulot. Non mais je ne sais pas si vous réalisez. Est-ce que Dieu est puissant ? Il est tout puissant. Et il nous dit qu'il est devenu notre Père et que nous devrions arrêter de nous inquiéter parce que si nous nous inquiétons, nous avons un cœur partagé, nous sommes irrésolus, nous ne pouvons pas avancer et nous ne sommes pas en bénédiction. Parce qu'en fin de compte, le texte où Jésus parle de cette foi, en même temps, il dit, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Il y a des gens, ils ont été des scandales dans l'église. Oui ou non ? Ça fait pitié. Je discutais avec Madame Delabre l'autre jour, elle me disait qu'un de ses oncles a perdu la foi parce qu'il a vu un scandale dans l'église. Eh oui. Malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Parce que moi je m'éloigne de Dieu, c'est une chose. Mais que je sois scandalisé par quelqu'un, et c'est pourquoi il y a tant de scandales ? Eh bien, parce que les gens n'ont pas la foi. Mais cette foi vivante, elle va nous permettre justement de dire, mais tu es tout puissant. Si tu as dit, si c'était vous qui le réclamiez, si ce n'était pas écrit, je comprends. Mais il est dit, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin, mon Dieu pourvoira. Alors on va terminer avec cette pensée. Dans l'évangile de Luc, il ne parle pas que de la foi comme d'une semence. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il rajoute au verset 7, et c'est peut-être là qu'est la solution. Que la foi soit une semence, ça je ne vous ai pas appris grand-chose, et je l'espère. Mais au verset 7, du verset 7 au verset 10, il y a le complément. Vous vous rappelez ? On l'a lu. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, ou pèle et troupeau, c'est le même texte. Hein. Dira quand il revient des champs, approche-toi vite, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après quoi tu mangeras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné ? Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Voilà, mes frères et sœurs, la clé de la foi. Non seulement la foi est une semence, la parole de Dieu donne la foi, La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais Jésus dit, mais au fait, est-ce que tu as fait ce qui t'avait été ordonné? Elle est là l'explication de la vraie foi. Il n'y a pas que la semence. Bien sûr que la parole, c'est une semence. Alors, il y a des gens qui sont déséquilibrés, qui disent, oui, mais il est écrit dans Ésaïe que la parole de Dieu, elle ne revient pas sans effet. Oui, mais moi, j'ai lu aussi dans les Hébreux que la parole qu'ils ont entendue, ça leur a servi à rien. C'est drôle comme on est capable de prendre un verset et de se tranquilliser et d'en faire n'importe quoi. Et vous? Alors, je te parle sérieusement. Et toi, j'aime pas tutoyer parce que je trouve que c'est bon, c'est ma façon. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, et moi, je me mets avec, est-ce que tu as fait ce qui t'avait été ordonné? Est-ce que tu le fais? Avec quoi? Quelqu'un me dira, parce que j'ai l'habitude maintenant. Eh bien, quoi? Tiens, Marie, est-ce que tu aimes ta femme comme Dieu te le demande? Car il est dit, Marie, aimez vos femmes afin que rien ne vienne faire obstacle. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais les sœurs, est-ce que vous aimez votre mari comme Dieu vous demande de l'aimer? Celui qui fait ce qui lui a été ordonné, c'est bien d'avoir de la prière et c'est bien d'avoir de la foi comme une semence qui va grandir. Gloire à Dieu. Mais Jésus dit, qui de vous? Le serviteur qui rentre, nous sommes ses serviteurs, tous. Nous devons continuer à obéir. Et Jésus parle d'humilité, d'obéissance. Est-ce que je fais ce qui m'a été ordonné? Les enfants ici, qui sont ici, écoutez-moi les enfants. Est-ce que vous obéissez à vos parents? Si vous avez encore vos parents, est-ce que vous obéissez à vos parents? Parce que quand même, c'est écrit, malheur à l'homme qui conteste avec son créateur. Si je n'aime pas ma femme, si je n'aime pas mon mari, mais premièrement, mais le diable, il est fin, croyez-moi. Parce que ce que le diable veut, c'est qu'on n'ait pas d'assurance, qu'on n'ait pas d'espérance, qu'on ait une foi, qui ne vaut rien, qui fait qu'on reviendra toujours au même point, et je vais m'inquiéter pour les fringues, et je vais m'inquiéter pour la nourriture, et je vais m'inquiéter pour le logement, et voilà, et on est tout le temps à la case départ. Alors, bien sûr, quelqu'un peut dire, mais moi, je suis toujours un enfant de Dieu, moi, ça me suffit. Bien, c'est bien. Mais je pense quand même que ça vaut la peine d'avoir une foi qui grandisse. Et dire, Seigneur, cette affaire, je vais... Si vous prenez l'évangile de Matthieu, nous pouvons tout régler par rapport à cette petite foi et avoir une foi qui grandisse. Je vais m'édifier moi-même sur ma très sainte foi. Est-ce qu'on peut chacun s'édifier soi-même? Est-ce que vous pouvez vous édifier vous-même? Mais il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. L'autre jour, je demandais à une chrétienne, est-ce que vous lisez la Bible? Elle m'a dit non. Franchement. Est-ce que vous m'habilitez à forcer les gens à lire la Bible? Est-ce que je peux forcer les gens à lire la Bible maintenant? Dites-moi, le conseil d'administration, là, je ne peux pas les forcer. Vous ne pouvez pas m'offrir un bâton et... Mais non, le Seigneur, il forcera personne. Un berger peut amener son mouton auprès des eaux paisibles. Un berger peut amener son troupeau dans les verts pâturages. Un troupeau, il peut faire de son mieux pour que le troupeau soit dans les meilleures conditions. Vous ne pouvez pas forcer une brebis à manger ou à boire. Mais mes frères et sœurs, si Dieu nous dit que notre foi, elle est sainte, on devrait être déjà sérieux avec cette affaire. Seigneur, tu m'as donné la foi, cette foi, elle va grandir. Oui, c'est une semence, elle grandit, elle n'a pas atteint la taille qu'elle aurait dû. Pardon, mais je vais faire ce que tu me demandes. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? J'ai pris le domaine des relations dans la famille, mais il y a tout le reste. Tout le reste. Et si je vous ai rappelé l'autre jour ce texte où on voit Dieu qui éprouve Abraham, rappelez ce texte terrible. Dieu mit encore Abraham à l'épreuve. Encore, c'est les mots dans la Bible, ça que moi j'aime pas trop. Encore. Et le lendemain, il obéit. Et quand Dieu intervient, il dit quelque chose que je vous ai dit, que je n'osais pas le dire tellement je suis conscient qu'on devient porte-parole de Dieu. Il dit, mais oracle de l'Éternel. Je le jure par moi-même, c'est Dieu qui parle. Parce que tu as fait ça, je te bénirai. parce que tu as obéi. C'est pas si tu obéis, mais parce que tu as obéi, je te bénirai. Et Abraham, touché par la grâce, va donner un nom à Dieu qui devrait nous apaiser quand même un peu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le Dieu du ciel et de la terre s'appelle à partir de ce moment Jéhovah Jiré. Et mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé de nom. Il s'appelle Jéhovah Jiré. Donc, ma foi est une semence, mais je vais obéir. Quand tu auras fait ce qui t'a été ordonné, ta foi, elle plaira à Dieu. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, chacun, alors ça c'est quand même pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi de vous dire, Olivier, fais ci, Madame Espèce, faites ça, Monsieur Grondin, etc. C'est à chacun de vous de dire, voilà, Dieu me demande ça. J'ai la conviction, parce que vous vous rendez compte, si moi je vous dis, Olivier, vous allez chanter à la chorale. Vous avez une belle voix, Olivier ? Non, je vous ai déjà entendu chanter, non, c'est pas terrible. Non. Écoutez bien, mes frères, si moi je dis à Olivier, chantez à la chorale. Vous faites rien dans l'église, c'est pas le cas, hein. Vous faites rien dans l'église, chantez à la chorale, faites quelque chose, bougez-vous. Non, mais c'est comme ça que ça marche, dans bien des endroits. C'est à chacun d'entre nous de dire, Seigneur, un jour je vais passer devant toi, je veux faire ce qui m'a été ordonné, ce que tu me demandes, Seigneur, je veux le faire. Et mes frères et sœurs, notre foi, elle grandira, parce que quand on fait ce que Dieu nous demande, on a de l'assurance. Et le problème dans l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui vont à l'Église, et ils ne sont pas capables, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, je n'exagère pas, 30 ans de conversion, de dire, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Si vous vous tenez devant Dieu, Dieu vous mettra à cœur. Ça pourra, peut-être, ça sera tout simple. Tous les dimanches soir, j'appellerai Madame un tel, parce qu'elles n'étaient pas là ce matin. Et je veux avoir de leurs nouvelles. Et si demain elle a besoin que j'aille y acheter quelques légumes pour la soupe, eh bien j'irai. Est-ce que ça peut être ça que Dieu vous demande? Ou est-ce que c'est au pasteur d'aller acheter les légumes? Est-ce que c'est au pasteur d'aller faire ceci, d'aller faire cela? Il y a des pasteurs, c'est ça dans les églises. Et là, c'est un bon pasteur. Je ne crois pas que c'est ça que Dieu demande au pasteur. Même si c'est bien d'aller voir les mémés et de boire un café avec. Mes frères et sœurs, quand tu auras fait ce qui t'a été ordonné, ta foi, elle augmentera. Alors on se recueille quelques instants. Vous savez, mes frères et sœurs, répondez à cette prédication, pas moi, mais répondez-lui. On se recueille tous, les enfants, vous qui n'êtes pas baptisés, vous qui allez bien, vous qui n'allez pas bien, recueillons-nous. Oui, la foi, c'est une semence. La parole, c'est une semence. La foi vient de la parole. Mais qu'est-ce que Dieu m'a ordonné? Est-ce que ma place, c'est à la réunion de prière? Est-ce que je prie avec mon épouse? Est-ce que c'est ça que Dieu me demande? Eh bien oui. Est-ce que Dieu me demande d'aller visiter une sœur? Est-ce que Dieu me demande de rentrer dans le ministère? Est-ce que Dieu me demande... Je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible que Dieu ne vous le montre pas. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, son âme reposera dans le bonheur. C'est sûr, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la crainte, ça c'est clair. Alors mon frère, ma soeur, on va prendre la Sainte Cène, mais que ce soit une victoire. Oui, je suis revenu à la case de départ, vous savez, comme au jeu de loi. Je reviens à la case de départ, je suis dans Matthieu chapitre 6. Mais est-ce que c'est pour y être dans 2 mois, de nouveau à la case 6, à la case 1? Où est-ce que je veux avancer? Qu'est-ce que tu m'as ordonné? Peut-être que vous êtes âgé et que la seule chose que vous puissiez faire, eh bien, c'est prier tous les jours un petit quart d'heure. Mais faites-le. Faites-le. C'est pas à moi de vous le dire. Ce n'est à moins que Dieu m'inspire, ça peut arriver. Que quelqu'un, que Dieu me mette à cœur, tiens, c'est vrai, je vous verrai bien à la chorale. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit éclaire chacun. Quand tu auras fait ce qui t'a été ordonné, tu auras de l'assurance. Tu auras une foi qui s'édifiera. Mes frères, soyons sérieux, on va bientôt partir. Vous le savez tous qu'on va partir. La colère de Dieu, elle vient. Il n'y a pas un aveugle qui ne le voit pas. Tout le monde voit que la colère de Dieu, elle vient sur la terre. et que comme elle vient, l'Église sera enlevée avant. Alors, frères et sœurs, cette sainte scène, il ne faut pas que ça soit une sainte scène de plus. Franchement, qu'est-ce que Dieu t'a ordonné, épouse? Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu sers? Est-ce que tu aimes ton mari? Marie, c'est pareil. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu prends soin d'elle? Eh oui. Enfin, est-ce que vous obéissez à vos parents ou est-ce que vous êtes déjà rebelle tout en étant fils de chrétien? Obéissez. Sinon, vos prières ne seront pas exaucées. Cherchons premièrement le royaume. Oui, Dieu nous a donné à tous une sainte foi. Gloire à Dieu. On a tous une foi dans l'intérieur de notre âme, on peut l'utiliser. Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières, frères et sœurs. Que rien ne vienne faire obstacle. Nous te remercions du fond du cœur, Seigneur, pour ta parole. Qu'elle soit comme un marteau, comme un baume, Seigneur, qu'importe. Mais que nous puissions terminer la course avec une foi vivante, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur. Amen.